je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est une diplomatie, aucun langage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de les présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. 38 actes à caractère illégal dans les secteurs social et la CUSPA ARDC ont été supprimés jeudi 19 juin par un arrêté interministériel signé par 9 membres du gouvernement. Ces actes ne peuvent plus, souligne l'arrêté, sous aucun prétexte être réclamés aux armateurs et tenanciers des ports. Et parmi les actes supprimés, 10 étaient perçus par les commissariats fluvial, 8 par la DGM, 5 par la DGDM, 4 conjointement par les FARDC, la PNC et les commissariats fluvial, 2 par toutes les provinces. Que faut-il pour une exécution efficace de cette décision? 081-890-4969. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission coordonnée réalisée par J.R. Lungembo, assisté d'Elvira Mbanzou. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde et Pierrot et la Meiji vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
C'est parce que Radio Capi et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
38 actes jugés illégaux supprimés par un arrêté signé par 9 membres du gouvernement, c'était les 19 juin dernier. Parmi ces actes, je le disais tout à l'heure, 10 étaient perçus par les commissariats fluviales, 8 par la DGM, 5 par la DGDM, 4 conjointement par les FARDC et la police nationale congolaise, ainsi que les commissariats fluviales, 2 par toutes les provinces. Cela veut dire la taxe sur les produits agricoles et celle dite frais des bulletins des contrôles. Que faut-il pour une exécution efficace de cette décision pour permettre à ceux qui exploitent les secteurs fluviales lacustres puissent circuler librement et opérer sans difficulté? C'est la question principale au centre de notre échange de ces jours. Théodore, vous êtes en Boujimaï, au Kassai oriental. Maître Gaston, ici à Kinshasa, mais d'un moment à l'autre, nous allons recevoir dans ce studio M. Daniel Voulungidi, conseiller fluvial au ministère des Transports et Voies de Communication. Et nous aurons aussi le témoignage en direct de M. Didier Moukoma, président des armateurs. Théodore, vous êtes en Boujimaï au Kassai oriental. Bonjour.
Bonjour.
Et que faut-il aujourd'hui pour arriver vraiment à une effectivité, n'est-ce pas, de cette décision de suppression des 38 taxes dans les secteurs fluviales et lacustres?
Nous saluons ces arrêtés qui sont appliqués sur la voie fluviale, parce que vous savez, ce n'est pas avec le commerce que nous sommes en train de pratiquer sur la voie fluviale. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Soit sur la voie maritime, il y a des déchargements, il y a les chargements qui sont faits de manière à ne pas permettre le bateau de circuler paisiblement. Et s'il y a vraiment arrêté, on doit faire des manières surtout à évacuer les produits agricoles. Il y a des cités, il y a des villages où nous cultivons, mais on n'arrive pas à évacuer le marchandise. Et la plupart des marchandises qui arrivent dans les gares, entreposées des fois, ces produits expirent. Ça devient des produits variés. Quand ça arrive sur les lieux de vente, ça cause des problèmes, que ce soit le service de l'État qui arrive, qui passe, ou bien qui brûle ces marchandises. C'est ainsi que nous disons que nous saluons ces arrêtés. Mais à part cela, nous voudrons bien qu'on puisse avantager surtout la voie routière. Parce que la voie routière, si les provinces en province sont reliées, comme par exemple les Maniema reliées au Kassai oriental, les Katanga reliées au Kassai oriental, n'auront pas de problème d'attendre les trains. Si la route est praticable, on achète des marchandises et on sait acheminer ça sur la voie routière. C'est ce que nous saluons, c'est là, mais on doit vraiment persévérer et surtout dans l'application des services. Voilà un peu ma préoccupation.
Merci beaucoup, Théodore. Il y a, à côté de cette décision, il faudrait aussi voir comment travailler pour le désenclavement du pays, hein, en reliant les différentes provinces par route. Cela peut faire aussi que beaucoup de gens qui passent plusieurs jours sur le fleuve, le lac, peuvent aussi recourir à la route pour évacuer les marchandises. Mais cela étant, il faudrait qu'on puisse arriver vraiment à prendre des mesures pour faire appliquer cette décision et permettre ainsi à tous ceux qui vivent le long du fleuve, le long de rivières, hein, d'être d'opérer sans difficulté. Merci beaucoup, Théodore. Maître Gaston, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Merci, à vous aussi, bonjour.
Mais pour arriver vraiment à voir cette décision prendre ses effets sur le terrain et que ces taxes ne soient plus perçues, qu'est-ce qui doit être fait?
Bon, disons que c'est d'abord réel que tous ces comportements qu'on vient de faire à l'usine existent réellement. Il y a vraiment une anarchie en la matière, mais à mon avis, il faut procéder par le changement des mentalités, mais aussi des conditions de vie. Hein, vous savez que c'est d'abord ces agents-là qui œuvrent à la matière des agents de l'État, mais aussi les fonctionnaires, ce sont des gens en quelque sorte qui n'appliquent pas la loi, à la matière des textes réglementaires. Vous verrez que non, ils sont là, non, ils taxent. Les taxes sont fixées jusqu'à aujourd'hui en monnaie zaïre et chacun taxe de sa manière et embauche la somme due. Ça ne va même pas au trésor. Et vous verrez que non, c'est vraiment dommage dans ce domaine. Moi, je veux qu'on puisse assainir notre administration. Parce que je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, pour créer une telle association, lorsque vous lisez la loi en la matière, la taxe finale est fixée en monnaie zaïre, mais dans nos ministères ici, vous devez débourser plus de $600 pour créer une association anti-bureaucratique. Donc, ne facilite pas les gens qui ont de bonnes volontés, et dans tout cela, cette somme-là n'est pas fixée par la loi. Vous, lorsque vous arrivez là-bas, on vous dit qu'il y a un arrêté qui fixe cette fois-ci les taxes en francs congolais. Est-ce qu'un arrêté peut abroger une loi? Ça ne peut pas se faire. Vous voyez que nous, les agents...
Oui, maître, mais ici, dans le cas qui fait notre échange aujourd'hui, le gouvernement central s'est rendu compte effectivement de l'existence de toutes ces taxes illégales. On en a énuméré 38, hein, que ce soit la DGM, que ce soit la DGDA, les commissariats fluviales, les provinces, tout ça. Et le gouvernement a dit, voilà, désormais, ces 38 taxes ne peuvent plus être payées par la population, ceux-là qui exploitent les voies maritimes. Alors, pour arriver vraiment à vivre cela, c'est-à-dire qu'à concrétiser cela sur le terrain, parce que ce n'est pas la fois qu'on prenne des décisions supprimant des services ou des taxes. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour que cela puisse vraiment être traduit en acte sur terrain, maître Gaston?
Bon, je vais d'abord faire remarquer que si réellement ces taxes-là existent sur le plan légal, disons il y a des textes qui consacrent ça, il faut procéder d'abord par abroger, à mon avis, révisiter ces textes-là, parce que ce n'est pas une décision verbale, soit une décision du ministre qui va en quelque sorte remettre en cause une loi, par exemple. Parce qu'à mon avis, il me semble que toutes ces taxes-là existent sur le plan légal, mais qui, en quelque sorte, constituaient une charge à l'encontre de... Il faut revoir ces textes-là. Et puis, si réellement, comme je viens de le dire, si réellement... il y a nécessité à revoir, disons, tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Il faut procéder, comme je l'ai dit, il faut procéder par l'assainissement de l'administration qui, à mon avis, ne fait pas son travail comme si vous donnez l'administration des génies, les potagers de certaines personnes qui taxent, qui prennent des décisions, qui taxent. Et cette somme-là ne
vont pas très bien. Voilà. Merci, maître. Bon, si quand je regarde bien, en fait, le gouvernement s'est rendu compte que ce sont des taxes perçues d'une manière illégale, hein, sans base vraiment juridique légale. C'est pourquoi ces taxes ont été supprimées. Il y en a beaucoup, on ne pourra pas citer. Mais vous estimez qu'il faudrait assainir d'abord l'administration et arriver vraiment à pouvoir mettre cela en pratique. Merci beaucoup, maître.
Vous savez,
oui, allez-y, en 30 secondes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement en 30 secondes, oui?
Non, mais j'ai déjà dit, mais j'allais ajouter aussi que non. Lorsque vous allez dans les services de l'État qui ont fait allusion là-bas, il n'y a même pas de nomination d'État. On ne sait pas, on paye telle taxe pourquoi, pour que la population puisse savoir aussi. Telle taxe s'appelle comme ça, donc les gens là-bas vous taxent, ils vous disent, donnez
oui,
ça,
mais oui, mais par là. Oui, c'est le constat que vous faites, maître, mais là on est dans un autre débat, nous avons une décision, les taxes sont supprimées, qu'est-ce qui doit être fait pour que ces décisions soient vraiment effectives sur terrain? Vous avez dit qu'il faut d'abord passer par l'assainissement du secteur, parce qu'aussi longtemps que les gens qui percevaient ces taxes vont se retrouver au même endroit et ils pourront continuer à pouvoir percevoir. Là, il faut assainir, mais d'une manière globale et générale, il y a des problèmes qui se posent au niveau des services publics, ça c'est vrai, en ce qui concerne la nomination, disons la nomenclature, ça c'est vraiment aussi dans un autre débat, pour ne pas vraiment aborder beaucoup de choses à la fois. Merci beaucoup, maître Gaston Galvani, vous êtes en Bougimaï, au Kassai Oriental, bonjour. Galvani, vous êtes avec nous de Bougimaï, bonjour.
Bonjour à tous.
Et pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que cette décision soit vraiment traduite en acte sur le terrain et que les gens ne soient plus tracassés à payer ces taxes qui sont déclarées illégales par le gouvernement?
Merci pour la parole. D'abord, je salue aussi cette décision interministérielle visant à supprimer toutes les taxes qui a fixé d'abord les armateurs et aussi d'autres commerçants qui utilisaient la voie fluviale et la quiche. Mais je prends aussi d'abord parce que dans les problèmes, ça va être un peu d'assainir le climat des affaires, et aussi ça va essayer un peu de faire un peu respirer les commerçants. Parce que vraiment, les taxes est influées aussi sur le coût même de la marchandise, et c'est qui constitue aussi la hausse des prix. Maintenant, avec cette situation, ça va essayer un peu de dire. Maintenant, quel mécanisme mettre en place pour que cela puisse se réaliser? D'abord, il faut sensibiliser d'abord le concerné, disons, les armateurs et les commerçants, les gens qui payaient d'abord ces taxes-là, de ne plus payer. Parce que s'ils peuvent continuer à payer, donc ils vont encourager cela. Et aussi, tout contrevenant doit être puni. La lutte contre l'impunité aussi, c'est ça le problème. Parce que ces secteurs-là, si vous constatez, c'est ces secteurs qui sont inclus dans cette tracasserie-là ou dans ces taxes illégales. Donc il faut d'abord, lutter contre l'impunité. Et supprimer tout cela en amont et en aval d'abord aussi. Supprimer toutes ces taxes, c'est déjà fait bien sûr, et dissoudre tous ces services. On peut supprimer, mais ces services continuent toujours à exercer là-bas. Donc, il faut d'abord sensibiliser les amateurs à ne pas d'abord payer ces taxes, et aussi supprimer ces services en question, et aussi lutter contre l'impunité. Parce que s'il y a toujours des récidivistes ou des contrevenants qui peuvent s'opposer, parce que le ministre, bien sûr, sont agents de ça, ce sont les gens qui sont sur le terrain qui agissent à l'insu des ministres. Donc, il faut que les gens qui sont d'abord sur les contrevenants puissent dénoncer si ces taxes continuent toujours à être perçues. Ils doivent dénoncer aussi, tous les gens qui sont les faits seront dénoncés. La justice doit aussi s'en charger.
Merci. Merci beaucoup, Galvani. Vous dites qu'il faut sensibiliser les armateurs, les commerçants à ne plus payer ces taxes. Ils doivent dénoncer s'il y a des agents et fonctionnaires de l'État qui continuent à percevoir ces taxes. Il faut aussi lutter contre l'impunité. Cela veut dire que les contrevenants doivent être poursuivis et doivent être traduits en justice. Et cela va permettre à ce que la décision du gouvernement soit exécutée. Mais sans oublier aussi qu'il faut évacuer dans les ports tous ces services-là qui est en train de percevoir cet axe. Merci beaucoup. Nous allons, avant d'écouter notre invité qui est déjà dans ce studio, écouter Aloïs qui nous appelle de Kananga. Aloïs Sakaji, vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental. Bonjour. Aloïs, bonjour. Et là, on a des petits soucis des lignes avec Aloïs qui est à Kananga, au Kassai Occidental. Je rappelle encore que 38 taxes à caractère illégal dans les secteurs fluvial et lacustre en RDC ont été supprimées jeudi 19 juin dernier par un arrêté interministériel signé par 9 membres du gouvernement. Ces taxes ne peuvent plus, souligne l'arrêté, sous aucun prétexte être réclamées aux armateurs et tenanciers des ports. Et parmi les taxes supprimées, 10 étaient perçues par le commissariat fluvial, 8 par la DGM, 5 par la DGDA, 4 conjointement par le FARDC, la police nationale congolaise et les commissariats fluviales, 2 par toutes les provinces. Que faut-il pour arriver à une exécution efficace de cette décision sur terrain? Je le disais tout à l'heure, notre invité est déjà dans ce studio, c'est M. Daniel Rulungidi qui est conseiller fluvial au ministère des Transports et Voies des Communications. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel si vous avez besoin de témoigner ou d'intervenir en direct dans cette émission.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoutes et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Tapissoir.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Monsieur Daniel Rulungidi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ces décisions du gouvernement. Peut-être avant d'aller sur terrain, nous disons que ces taxes ont été déclarées, on peut dire. Ils avaient un caractère illégal. Alors, comment ces taxes peuvent être illégales? Alors, quels sont les textes qui ont fait que ces 38 taxes puissent exister dans le secteur des transports fluviales?
Un travail de fond a été réalisé en concertation ensemble avec les armateurs et le ministère des Transports qui a coordonné, personne qui a coordonné ces travaux pendant pratiquement un mois. Au niveau du ministère des Transports, à l'époque, déjà avec les états généraux de navigation, qui sont organisés en 2012, au mois d'août, une étude avait démontré qu'il y en avait 162. Alors, 162 taxes, perception qui était faite au niveau de l'exploitation fluviale et l'Arcus. Il nous a fallu un peu du temps pour pouvoir essayer de réorganiser les choses parce que la matrice, ce qui concernait les états généraux était assez quand même, il y avait beaucoup d'actions qu'il fallait mener. Alors, le temps était arrivé où, effectivement, les armateurs sont venus se plaindre pour pouvoir un peu travailler sur ce secteur. Et ils se sont même menacés de pouvoir arrêter pratiquement l'activité sur l'exploitation, qui devait avoir des conséquences. Et c'est comme ça que nous avons pris la chose en main, et puis le ministère des Transports s'est arrangé de ces travaux pour pouvoir convoquer maintenant, pour convoquer les armateurs et tous les services concernés. Comme ce sont des amateurs qui étaient sur le terrain et qui comprenaient, qui savaient bien quels sont les prélèvements qui étaient opérés à partir de textes et de documents qu'on leur remettait dans le, tout le long de leur parcours, ben, on a commencé à inviter tous les services concernés. C'est un travail de fond qui a été fait où on a convoqué séance par séance, un jour où il y avait le ministère de l'Environnement, un jour où il y avait le ministère de Finances, un jour où il y avait le ministère de l'Intérieur, un jour il y avait le ministère de l'Agriculture. Donc on a convoqué tous ces services, séance par séance, et ça nous a pris pratiquement un mois. Et puis, c'est que sur le nombre de perceptions, de prélèvements qui étaient identifiés par les armateurs, c'était un nombre de 59. 59 prélèvements. Alors, nous avons commencé à analyser chaque service. On a fait les services et puis on voit quelles sont les perceptions qui étaient, les prélèvements qui étaient décriés. Nous avons donné 2 critères. Le premier critère, on s'est dit, est-ce que ces prélèvements ou bien cette taxe ou cette perception a un fondement juridique pour voir si effectivement il y a un fondement juridique légal. Donc un arrêté, une ordonnance, ou effectivement si ça existe. Si nous trouvons que ça existe, à ce moment-là, nous voyons, est-ce qu'il y a une redondance par rapport à une perception qui est faite de même, la même perception qui est faite dans un autre service, parce que ça se trouve dans la loi financière. Alors, nous avons identifié d'abord, donc ce travail-là nous a permis de comprendre que il y avait des prélèvements, des taxes qui existaient, qui n'avaient aucun fondement légal, aucune base. Alors, c'est ce qui fait que nous étions obligés de pouvoir mener les toilettes et puis voir maintenant quels sont ceux-là, ce prélèvement qui avait un fondement légal. Et quand on voit qu'il y a un fondement légal, est-ce qu'il n'y avait pas une certaine redondance
avec d'autres services?
Avec d'autres services. Donc c'est cette démarche qui a milité à ce que nous puissions arriver maintenant à pouvoir maintenant identifier et les éclater en deux volets. Donc on a pris ceux-là qui n'avaient aucun fondement légal, même pas une base juridique, un texte qui existe, donc créé sur terrain par les services à l'entité qui ont identifié avec des documents qui n'ont aucune base légale, et on a pris ces documents, on a pris ces prélèvements, on les a mis dans un côté. On a pris maintenant dans l'autre côté ce qui existait, mais qui avait un fondement, qui a une loi qui existe, ou une loi financière, ou bien un arrêté, mais qui était redondant par rapport aux autres services. C'est ça maintenant, c'est ça la deuxième phase qui a été instituée. Donc c'est comme ça que maintenant, tout ce travail a été soumis au gouvernement, le gouvernement a statué, et jusqu'à à signer cet arrêté qui consacre la première phase qui concerne les perceptions ou les prélèvements qui n'ont aucun document, aucune base juridique. Ce sont des 38 que vous êtes en train de faire l'objet de cet arrêté que nous sommes en train, qu'on a publié récemment.
Voilà.
Donc la deuxième phase va passer, le deuxième toilettage va passer maintenant pour voir les autres prélèvements qui ont une base juridique, mais qui sont redondants
avec d'autres services.
Avec d'autres services. Donc pour les presser, d'assainir la fiscalité dans ce secteur.
Voilà. Mais on sait qu'on a beaucoup de difficultés sur terrain. Hein. On prend des mesures. Le grand problème, c'est comment accompagner cela. On prend des décisions. Comment accompagner cela sur terrain. Mais par rapport à cette décision de suppression, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que déjà, ça s'exécute déjà, qu'il y a des armateurs, les gens, les terrassiers des ports qui ne payent pas cette taxe? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour accompagner cette décision?
Bien, ça veut dire qu'actuellement, nous sommes habitués, évidemment, comme les gens le disent, j'étais ici dernièrement quand on a passé l'émission. C'est-à-dire une loi qui naît le matin, et puis à 12h, il attrape le Maria, à 15h, il est à l'agonie, elle est à l'agonie, et puis
on va l'enterrer.
J'ai aimé cette expression-là, mais je crois que le gouvernement actuellement a pris des expressions pour mettre en place un institut qui va permettre à ce qu'on puisse suivre l'applicabilité de ces décisions. Parce que vous savez que notre environnement, c'est un secteur qui est vraiment vital pour notre pays, et c'est par ce secteur que tous les autres modes de transport doivent se graisser. Quand vous regardez même depuis la colonisation, c'est particulièrement dans cette logique qu'on a développé les autres infrastructures, les autres modes de transport, comme la route, le chemin de fer. Vous commencez Kinshasa ici par voie fluviale, par la route qui par la rivière Kassai, pour aller jusqu'à Idebo, et Idebo, comme ça s'arrête là-bas, il y a un chemin de fer qui va jusqu'à Lubumbashi.
Ouais.
Vous voyez, donc le chemin de fer a été construit juste après, pendant qu'il y a une navigabilité de 604 km sur la rivière Kassai. Donc vous voyez, c'est le secteur monétaire, parce que ce sont des autoroutes naturelles. Alors il faut assainir ce secteur-là pour pouvoir le permettre. Le gouvernement, dans ce sens-là, pour arriver à matérialiser, pour être efficace cette fois-là, il a mis en place un comité, parce qu'un comité de pilotage pour pouvoir faire l'application de ces de cette décision. Et ce comité est en train de travailler, donc c'est un comité parce que il faut assainir, c'est un comité uniquement mis en son place pour pouvoir faire l'assainissement, hein, pour rendre l'environnement des affaires propice pour pouvoir opérer dans notre pays. C'est un comité qui existe, qui va travailler, va commencer à mettre en place, et une sensibilisation qui va être faite par ce comité-là pour arriver à atteindre toutes les couches et aller jusqu'en province pour voir pour qu'on n'ait plus que ces décisions de commun accord ensemble.
Voilà, mais en partant de la date de la signature de l'arrêté, cela veut dire que ça entre en vigueur. C'est qu'à partir de cette date, personne n'a le droit de pouvoir percevoir ces taxes. Mais est-ce qu'il y a des gens qui surveillent sur terrain pour savoir, bon, parce que quand on parle du comité, il va aller, peut-être c'est dans le futur, est-ce qu'ils sont déjà sur terrain, et qu'est-ce qui passe en pendant ce moment depuis que l'arrêté a été pris jusqu'en ce moment? Est-ce que les gens continuent à payer ou il y a des gens qui surveillent quand même pour que ça ne soit pas perçu?
Chaque service qui est concerné par cet arrêté, parce que vous savez que c'est 9 ministres qui ont signé, donc ça signifie que chaque ministère a ses représentants sur le terrain. Je prends le cas, par exemple, du ministère du Transport. Le ministère du Transport, nous avons dans les différents ports ce qu'on appelle des commissaires civils. Les commissaires civils et l'ACIS, ils sont là. Donc, ils ont l'arrêté. Et dès qu'ils ont l'arrêté, tous les services, toutes les perceptions qui concernaient le ministère des Transports, hein, automatiquement, on met une croix là-dessus. Donc, si vous voyez que quelqu'un est en train de percevoir une taxe qui a été supprimée pour compte du ministère des Transports et qu'il en a de fait, ben, on a mis en place des mécanismes pour avoir un système d'information. Mais on va évoluer parce que je crois qu'à un moment donné, on va avoir peut-être même un téléphone, un numéro de téléphone qui va servir un numéro rouge, comme on appelle. Un numéro rouge. Dès que vous constatez ça, vous nous appelez. C'est ce qui s'est passé pour un événement. On a réglé une situation comme ça la semaine passée. Il y avait un armateur, un tenancier portuaire, qui est en train de percevoir une taxe qu'on appelle le contrôle animal et végétal. Le contrôle animal et végétal. Vous savez que, comme ils n'ont pas vu ça dans la liste des taxes, il n'en a pas, je dis non. Le contrôle animal et végétal, ça n'existe pas. La taxe existe légalement. Mais qui doit la percevoir? C'est ça le problème. Or, cette taxe, en principe, elle est dévouée pour les services de quarantaine. Mmh. Et ça, c'est à l'importation.
Oui.
L'importation. Comment voulez-vous installer un contrôle animal au port ici, pendant que viennent de Bandundu, viennent de Sangani, tout ça, vous voulez demander à ce qu'on puisse faire une perception d'un contrôle animal et végétal. Mais tous les services d'assainissement, les services d'hygiène, à quoi ça consiste. Donc, ces services, ces taxes, on ne peut pas la supprimer. Mais seulement, c'est une mauvaise utilisation, ça s'est dévoué pour compte des services à quarantaine. Donc, et ça, c'est à l'importation qu'on arrive à l'apercevoir. Donc là, nous avons vu des amateurs qui voulaient le faire. Il y a eu une résistance des opérateurs économiques et même des usagers de nos vols de route de navigation qui sont arrivés jusqu'au cabinet, qui sont venus avec l'opérateur. Ils disent non, mais nous, on n'a pas vu cette taxe-là existe. Ils disent non, monsieur. Un contrôle animal et végétal, c'est pour le service de la quarantaine. Vous n'êtes pas le service de la quarantaine. Vous ne pouvez pas l'apercevoir parce que c'est distribué sans rentrer de province et de service de livraison dans la province de Kinshasa, ici, à cela. Et on a dit non, écoutez, voilà. Ça s'arrête.
Okay.
Donc voilà un peu. Ce mécanisme-là qu'on est en train de mettre en place. Mais je crois qu'on est dans une phase de démarrage, de la mise à l'applicabilité de ce quoi. Mais déjà, tous les services concernés, ils sont en train de mettre en place des structures pour pouvoir vérifier l'applicabilité de ce mesure.
Okay. Nous avons Aloïs qui nous appelle des Kananga, Franklin est à Bukavu et Jean-Marie est à Lubumbashi. On va revenir à vous, je rappelle encore, comment arriver à rendre efficace cette décision de supprimer 38 taxes prises par le gouvernement sur le terrain. Vos propositions et pistes et les solutions sont les bienvenues. 081-890-4969.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Aloïs, vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot et la Mégie, et bonjour à tout le monde.
On vous écoute, qu'est-ce qui doit être fait pour que cette décision soit vraiment effective sur le terrain?
Oui, d'entrée de jeu, messieurs les journalistes, nous accueillons avec des fleurs aux lèvres l'arrivée de cet arrêté qui, à mon avis, avait une mesure sanitaire dans ce domaine qui, au départ, était asphyxié par toute une panoplie de taxes dont les frais, qui entraient en profondeur, servaient aux intérêts de particuliers. C'est vraiment un arrêté qui corrobore au principe selon lequel trop d'impôts tue d'impôts. Alors, pour répondre à votre question, en termes de propositions, je vais vous en faire trois, presque quatre, si je ne m'abuse pas.
Mm-hmm.
Premièrement, il faut couper court avec le passé. Et quand je parle du passé, mon regard se porte sur un aspect selon lequel il y a quelques décisions qui sont prises dans ce pays. De très bonnes décisions, bien sûr, mais en pratique, ces dernières restent dans les tiroirs de ceux qui les prennent, faute de suivi. Deuxièmement, je pense qu'il faut aussi le respect des textes. Il faut que le respect des textes soit de mise, en passant par la volonté politique. Parce que vous le savez bien, avec un peu de volonté, on peut arriver à faire quelque chose. Troisièmement, il y a de ces gens-là qui, se servant dans des expériences du passé, peuvent vous dire aujourd'hui que de telles décisions qui sont prises, un coup de paix dans l'eau. Et devant une telle situation, il faut répondre à ce n'est pas par les récalcitrants de telles décisions qui sont vraiment bonnes que nous saluons. Pour finir, nul n'est censé ignorer la loi, disent les juristes, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Faut-il qu'on associe une grande sensibilisation, comme l'a dit l'un de mes prédécesseurs, pourvu que cette décision soit nécessairement portée, grande portée de ce destinataire, voici ce que j'avais comme contribution par rapport à ça. Et j'ai dit, pour ce fait, merci à la radio Capi qui, au départ, a commencé déjà cette sensibilisation. Merci.
Merci beaucoup, Aloïs. Vous dites qu'il faut d'abord assurer les suivis de la décision pour faire différence avec le passé. Il faut de la volonté aussi pour arriver vraiment à faire appliquer cette décision. Il faudrait punir les récalcitrants, ceux-là qui voudraient bien résister dans le mal. Et enfin, il faut une forte sensibilisation auprès de la population, auprès des armateurs, auprès même des agents et fonctionnaires de l'État. Merci pour ce soutien, les travaux de sensibilisation que nous faisons déjà dans cette émission. Merci beaucoup, Aloïs. Nous restons, nous allons à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Franklin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Vous avez suivi la proposition, oui.
Oui. J'ai salué cette mesure aussi, comme mes prédécesseurs l'ont fait, mais seulement une crainte existe, c'est au niveau de l'application, parce que ce n'est pas la première fois. Nous avons aussi même l'ordonnance du président de la République limitant les services à la frontière à 4 qui n'a jamais été respecté. Mais moi, je pense que, espérons que cette fois-ci, ça sera la bonne. Mais pour y arriver, j'avais quelques propositions à faire pour la bonne marche, pour la bonne application de cette décision. D'abord, moi, je pense qu'il faut supprimer la chaîne de perception. Parce que les percepteurs de toutes ces taxes-là rendent compte à une personne, rendent compte à un service. Et donc, il faut arriver à supprimer ces services-là, il faut arriver à dénicher ces services-là qui envoient les percepteurs du terrain et arriver à supprimer ces services-là. Parce qu'ils ne percevaient pas ces taxes-là, ça pour autant rendre compte à leur personne. Mais malheureusement, toutes ces taxes-là, tous les autres perçus dans ces taxes, faisaient la course, terminaient leur course dans la poste des individus. Dès qu'on arrive à identifier cette chaîne de perception, à supprimer ça, ça sera la première mesure, ça sera sanitaire. Deuxièmement, je pense qu'il faut créer un comité mixte entre les armateurs et l'État pour faire le suivi de l'application de cette mesure. Parce que dire que l'État lui-même va faire le suivi, je ne sais pas comment, au moment où on est au niveau de l'État, que nous avons les agents qui perçoivent cet acte-là. Mais s'il y a une commission mixte, un comité mixte entre les armateurs et les services étatiques, on peut arriver quand même à diriger certaines failles observées par-ci par-là et certaines absences de l'application de la décision. Deuxièmement, on l'a dit, les mesures disciplinaires doivent aussi être au rendez-vous. Il ne faut pas évoluer sous un régime de l'intimité. Non, tout celui qui se verra récalcitrant à cette mesure doit être aussi puni, doit être discipliné et ça peut donner de l'exemple à d'autres personnes. Je termine aussi en disant qu'il faut informer les armateurs sur les nouvelles taxes à payer. Aujourd'hui, on ne sait pas quelles taxes nous déjà doivent payer et quelles taxes qui ne doivent pas être payées parce que la nomenclature des taxes n'est pas connue par les armateurs. Et je voulais oublier une proposition à faire, c'est aussi les assujettis. Parce qu'on accuse l'État, mais c'est parce que les agents, les gens aussi, les commerçants ou les armateurs ne sont pas nécessairement aussi pas en ordre avec l'État. Et donc, lorsqu'ils voient les agents de l'État, ils cherchent à les corrompre pour éviter d'autres autorités qui ne sont pas en ordre avec l'État. Et donc, c'est par là que moi je voulais terminer, et c'est ça, sur la proposition. Mais moi, j'ai dit, la décision est bonne, mais je laisse un peu pessimiste quant à l'application, parce que ce n'est pas la première mesure que nous avons vue être prise, mais qui n'est pas appliquée dans ce pays.
Merci beaucoup, Franklin. Au-delà de votre pessimisme, vous pensez aussi que s'il faudrait supprimer la chaîne de perception, avoir un comité entre l'État et les armateurs pour la surveillance des mesures disciplinaires, l'accès aussi à l'information, hein, et puis permettre aussi dire aux commerçants, aux armateurs, nombreux ne veulent pas se mettre en ordre avec l'État, et comme ça ils sont victimes de toutes ces pratiques. Voilà autant de mesures qu'il faudrait pour arriver vraiment à concrétiser cet arrêté sur terrain. Jeannot, vous êtes à Lubumbashi dans les Katanga, bonjour.
Bonjour, monsieur Pirouet.
Vous avez suivi les uns et les autres pour arriver vraiment à avoir ces taxes disparaître dans les secteurs fluvial et lacustre et d'une manière efficace sur le terrain. Qu'est-ce qui doit être comme mesure pour accompagner cela?
Je voudrais seulement me résumer parce que tout le monde a parlé beaucoup sur ce sujet-là. Donc, les amis ont donné quand même des points de vue qui sont très valables. Mais je voudrais vous dire quelque chose de concret. Parce que quelqu'un qui va se réveiller le matin comme ça, il va au port et qu'il se fait taxer à nuit. Ces gens qui sont aux taxes partout dans les frontières, Kasumbalesa, Mwanda, Boma, dans tous ces services-là, douane et tout ce que vous voulez là. Ils ont des parapluies à Kinshasa. Il y a des gens qui s'assoient qui demandent de faire ça, salakaka, vous avez déjà dit, bon, ça, l'aéroport comme côté. C'est ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez là, des taxes, des meetings, des réunions, des ceci, de... ça n'aboutira à rien du tout. Tant que les gens n'ont pas fait de la justice, monsieur.
Oui, allô, Jeannot. Ainsi, il y a moyen peut-être que la rédaction, la réalisation puisse recontacter Jeannot. Il est en train de dire pour lui qu'aussi longtemps qu'il y aura des trafics d'influence au niveau de Kinshasa, des couvertures, tant que les gens n'auront pas peur de la justice, ça sera difficile qu'on puisse vraiment vivre le changement sur terrain. On pourra voir si c'est possible de recontacter Jeannot de Lubumbashi. En attendant, maître Kaïmbe, vous gardez la ligne. Revenons à vous, monsieur Daniel Voulungidi. Vous avez suivi nos auditeurs, il y a ceux qui sont pessimistes, hein, c'est par rapport à l'expérience du passé, mais il y a aussi ceux qui croient vraiment qu'avec la volonté politique, la sensibilisation, la lutte contre l'impunité, on peut arriver vraiment à trouver des solutions. Mais Daniel a dit quelque chose d'important, c'est que ceux qui sont sur le terrain, ils opèrent parce qu'ils ont des canaux de couverture jusqu'à Kinshasa, comme on utilise mieux les termes. Mais est-ce que là, on ne peut pas tomber dans les pièges où nous-mêmes qui prenons les décisions, nous risquons d'être nous-mêmes aussi derrière les mêmes mauvaises pratiques? Et alors, comment le ministère, l'ensemble, peuvent s'échapper à ces pièges-là?
Je pense que même dans la réalité, on a déjà essayé un peu de mettre un peu des garde-fous là-dessus.
Mm-hmm.
Nous savons qu'effectivement, les gens sont habitués à ce pessimisme-là, pour dire, écoutez, bon, c'est comme toujours, on passe des décisions à 18h, ça devient des moribonds. Donc, non, nous devons, quand même, si nous devons aimer notre pays, nous devons vraiment chercher à ce que nous puissions nous impliquer pour pouvoir assainir cet environnement. Voilà, par exemple, l'environnement macroéconomique de notre pays. Il faut créer ce qu'on appelle l'attraction des investisseurs. Si on ne crée pas cette attraction-là, ça serait difficile.
Mmh.
Et c'est comme ça que le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour essayer de mettre un peu un environnement assaini où les opérateurs, les investisseurs peuvent venir y investir. Et nous savons aussi, par exemple, quand ça concerne ce pessimisme-là, des dispositions sont prises dans cet arrêté où il est bien dit, à l'article 2, tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté interministériel s'expose aux sanctions administratives et pénales, conformément à la loi. Mmh. On dit administrative et pénale. Donc si effectivement vous récidivez dans ces pratiques-là, et qu'on arrive à le constater, la loi va vous attraper, c'est ça le problème. C'est comme ça qu'on a mis les garde-fous. Et comme ils ont proposé des comités dont je parlais, parce que le gouvernement veut quand même mettre un environnement assaini pour que les opérateurs viennent, les investisseurs viennent. On a besoin de créer des entreprises pour essayer de réguler le chômage qu'il y a. Mais si cet environnement n'est pas profit, ça sera difficile à ce que ces investisseurs viennent. C'est comme ça qu'il y a tout un comité de pilotage du climat d'affaires et des investissements qui existe au niveau du gouvernement qui a été institué pour faire le suivi de toutes ces décisions-là.
Mmh.
Donc chacun dans ce qui concerne ceux qui font partie de cela, ils vont essayer de chercher à faire une certaine topo pour voir comment ça s'applique et tout ça, s'il y a des mesures, des corrections qu'il faut faire, s'il y a des sanctions qu'il faut prendre, on va les sanctionner. Donc s'il y a des récidivistes et qu'ils veulent continuer dans cette pratique-là, ben, la loi va les attraper et puis il ne faut pas qu'ils viennent maintenant commencer à demander ceci, non, qu'il y ait un peu d'influence.
Mmh. Mais maintenant, il y a un autre piège, ça peut être par exemple contourné. Il y a ces taxes. Nous avons là les 38 sur la table avec autant de ceci, cela. Mais les mêmes personnes, parce que Jeannot a évoqué, par exemple, les ramifications au niveau des différents ministères, ceux qui sont sur le terrain et des ramifications, ça, ils ne peuvent pas contourner la même taxe qui a été supprimée parce qu'elle est illégale, mais on l'a créée autrement en recourant derrière un texte juridique dans un ministère pour la restituer encore de nouveau. Voilà un peu comment tout est possible encore sur le terrain pour que les gens puissent contourner cette décision et réintroduire les mêmes perceptions, mais avec des textes les différents services et ministères.
Mais c'est ça le rôle du comité de pilotage des climats des affaires et des investissements. C'est ça ce rôle-là. C'est le comité-là. Il va chaque fois à tout moment faire une certaine vérification sur les sites. Il y aura des points focaux qui vont être sur les sites pour vérifier, pour donner des informations, pour essayer de voir comment c'est appliqué. S'il y a des textes, parce qu'en plus, quand on a fait ce toilettage-là, on va maintenant identifier réellement ce que les armateurs doivent payer, les usagers de la route de navigation doivent payer. Ils savent qu'il y a ça, ça, ça et ça, ça. Quand c'est défini, effectivement, quand vous venez avec une autre taxe, si effectivement il n'y a aucune base légale, les gens vont résister. Parce qu'à ce moment-là, maintenant, ça sera facilement identifié par le comité de pilotage qui a des points pour que sur le site. Ils vont essayer de voir, et puis les campagnes de sensibilisation ne vont pas manquer. Parce que si les gens savent, ils ont des formations. Ce qui tue, c'est la sous-information. Quand la sous-information, qu'on a dit toujours, est source de malentendus. Donc, quand on est sous-informé, quand on est sous-informé, il est difficile de pouvoir échapper à ce genre de
voilà. Je crois bien que Jeannot est revenu sur les antennes. Jeannot qui, avec nous, qui ont été en contact tout à l'heure de Lubumbashi. Jeannot, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous.
Ah, merci beaucoup d'être revenu. Vous êtes en train de dire aussi, longtemps que les gens n'ont pas peur de la justice, ce sera difficile de pouvoir réussir. Alors, la suite est de votre...
C'est la forme complètement de tout, mon frère. Les gens n'ont pas peur. Vous vous souvenez, le président de la République avait été le droit de certains des règlements à la frontière. Il devait être sur le site du GN, des GM, ainsi de suite. Il faut voir, il faut encore entrer là. Et si ça ne fait pas même. Donc cela veut dire que les gens n'ont pas peur de la justice. Tant que les gens n'ont pas peur de la justice congolaise, vous pouvez chanter, faire tout ce que vous voulez, les lois, vous élaborer les lois, tout ça, et il n'y aura rien de concret sur le terrain. Parce que tant que les gens font, il y a des mal. Nicolas Sarkozy qui était président de la République, on a convoqué à la justice, on n'a pas peur de lui. Mais ici chez nous, les gens sont en train de dire, dans ce langage, j'ai mon frère là-bas, j'ai mon frère ici. Non, ça va finir la vérité. Tant qu'il n'y a pas, il n'y aura pas, on ne va pas finir les gens, l'intérité va vivre, va être très très fort. C'est ça.
Vous
pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne sert à rien du tout. Regarde, quand vous arrivez à l'aéroport de Ndjili, combien de services il y a là-bas? Vous avez la chaleur d'abord vous-même, vous allez faire de rentrer là où vous venez. Vous dites, ce n'est pas possible. Je suis allé une fois à Nairobi. Vous arrivez à l'aéroport, vous dites, mais c'est un déconné ou comment? Il vous salue, il vous met à l'aise, il vous donne un coca. Après, vous dites, monsieur, votre passeport, là, vous pouvez partir. Mais mon frère, quand vous arrivez en Guinée, c'est moi, vous êtes à l'enfer. Ça va pas. Tant que les gens n'ont pas la peur de la justice, c'est la complice de ces gens-là.
Merci beaucoup, Jeannot. Vous avez insisté sur le rôle de la justice pour rendre efficace toutes ces mesures. Vous avez dit à l'ordonnance du chef de l'État limitant au niveau des postes frontaliers 4 services. Et aujourd'hui, vous dites là où vous êtes, il y en a maintenant 9. Je crois bien qu'à Sombalé, ça et dans d'autres postes frontaliers, ces services qui sont supprimés reviennent petit à petit. Tout ça, c'est parce que les gens ne sont pas punis. Il faut punir les gens pour que, enfin, qu'il y ait le changement nécessaire. Merci beaucoup. Nous restons ici à Kinshasa avec Maître Kayembe. Maître Kayembe, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à monsieur l'invité et différents membres de la Radio de la Paix.
Vous avez suivi, Jeannot insiste beaucoup à partir de Lubumbashi, qu'aussi longtemps que les gens n'ont pas peur de la justice, ça sera difficile que l'arrêter, cette mesure puisse être efficace sur le terrain. Quel est votre point de vue?
Bon, en fait, je salue beaucoup l'intervention de monsieur Jeannot. Monsieur Jeannot a touché un point très très essentiel. Vous savez, il se pose un problème de l'assainissement dans ce pays, dans les affaires économiques. Aussi longtemps, nous ne savons pas donner respect à la justice, rien ne va se faire normalement. Moi, je plains beaucoup. Pourquoi? Je dis, voilà, pour la unième fois, le gouvernement congolais vient d'escroquer des millions de Congolais. On a fait payer aux Congolais des taxes illégales. Est-ce que la nouvelle époque qu'on vient de mettre en œuvre pour, soi-disant, abolir et anéantir les différentes taxes, a-t-elle prévu une modalité de réparation de préjudices subis par les différents opérateurs économiques? Au cas contraire, moi je pense, c'est maintenant le procureur général de la République doit ouvrir des actions judiciaires contre tous les contrevenants. La taxe ou l'impôt, c'est un devoir civique. Si aujourd'hui les Congolais n'ont plus le civisme fiscal, c'est suite à cette gabegie financière et fiscale que nous assistons. Alors, je ne sais pas si M. l'invité pourra nous dire si dans la nouvelle loi qu'on vient de prendre, on a prévu un pays auquel les gens qui ont payé des impôts illégaux, on pourra leur restituer leur somme d'argent. Parce que c'est de l'indu. C'est de l'escroquerie que le gouvernement vient de faire. Et le parquet général de la République doit poursuivre. Ce n'est pas seulement que la justice puisse se fonctionner au moyen des politiciens. C'est maintenant qu'il faut agir. Ce sont des impôts illégaux. L'argent payé par les opérateurs économiques doit être restitué en bon et due forme. Et j'ai d'opère aussi la FEC. La FEC doit être l'œil pour la protection de nos misérables opérateurs économiques. Combien de temps ces taxes les opérateurs économiques ont payé? 38, c'est beaucoup quand même. Comment nous pouvons trouver dans ce pays des investisseurs réellement crédibles? Ça n'existerait pas, nous avons des pirates économiques ici.
Merci beaucoup, Maître Kaimbe. Vous dites qu'au-delà du fait qu'on a cet arrêté, maintenant on regarde dans l'avenir, mais il ne faut pas aussi occulter les passés, parce que cela a été déclaré illégal, c'est qu'il y a des gens, des individus qui ont escroqué les opérateurs économiques, les armateurs, ils ont escroqué la population. Y a-t-il des mesures, des modalités pour savoir tous ceux qui ont perçu d'une manière illégale? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Y a-t-il des mesures pour pouvoir et rembourser, qu'est-ce que le gouvernement prévoit par rapport à ce qui s'est déjà passé? On pourra voir avec votre invité si cela a été discuté avec les armateurs et les autres personnes concernées dans ce secteur. Nous avons Moulunda qui nous appelle de Kindu dans la province de Maniema. Bonjour Moulunda. Moulunda,
bonjour,
vous êtes avec
bonjour,
nous.
Bonjour la radio Kati.
Merci beaucoup Moulunda d'être avec nous dans cette émission. On tend déjà presque vers la fin. Alors pour vous, qu'est-ce qui va être fait d'une manière efficace en dehors de ce qui a été dit par d'autres compatriotes pour rendre cette décision efficace sur le terrain?
Oui, moi je salue d'abord cette bonne méthode. Mes prédécesseurs ont déjà beaucoup parlé pour cette mesure. Ce que moi je regrette beaucoup, c'est que notre gouvernement était où tout ce temps pour prendre cette mesure. Et que j'ajoute aussi qu'il faut qu'il y ait un suivi pour cette mesure. Parce qu'il n'y a pas de suivi, je pense que cette mesure n'aboutira nulle part. Ça sera la 20 tête de fin, certainement. Une tête de fin, plutôt.
Voilà, merci beaucoup Moulunda. Il faudrait les suivis. Mais où était le gouvernement depuis que les gens payaient toutes ces taxes illégales? Monsieur Daniel Voulungidi, est-ce que vous avez pensé aussi à ça? Parce qu'il y a quand même des gens qui ont perçu l'argent d'une manière illégale. Peut-être que cet argent, d'abord, comme ça a été perçu illégalement, c'est que c'est dit que ce n'est pas entré dans les trésors publics. Ça, on peut être d'accord. Mais est-ce qu'il y a-t-il des mesures par rapport au passé? Ce qui s'est fait, qui était auteur, qui ont fabriqué ces taxes, ces décisions, tout ça, ou bien on s'est limité seulement à regarder dans l'avenir?
Non, je pense que nous sommes à un point où nous sommes arrêtés. Le gouvernement s'est arrêté pour dire, bon, écoutez, nous sommes en train d'envisager un environnement assaini pour pouvoir créer de l'attraction au niveau de l'investisseur. Donc, ce qui est passé, on a fait d'abord l'autopsie, on a vu ensemble avec les armateurs, on a fait l'autopsie et puis ce sont les services qui sont, parce que c'est pas un seul service, c'est plusieurs services. Quand on a dit 38, c'est pas seulement que c'est peut-être le ministère de l'Intérieur.
Non, il y a le commissariat fluvial, il y a la SNCC, il y a les provinces, il y a la DGM, la DGRAD, la DGDA, et j'en vois là beaucoup, même les Sokoda, tout ça.
Voilà.
La FARDC, Police nationale congolaise, voilà autant de personnes impliquées, oui.
Voilà, ça dit que maintenant, il faudrait que chaque ministère, chaque service concerné par ces perceptions illégales, en principe, ils doivent prendre des dispositions qui s'imposent dans leur structure pour pouvoir décider de ce qui était passé pour que ceci ne puisse plus revenir.
Y compris aussi le ministère des Transports et des Communications.
Au niveau du ministère des Transports, par exemple, nous savons bien que ce sont des perceptions qui étaient faites au niveau du commissariat fluvial. Mais ce commissariat fluvial, parfois, vous voyez, ces commissariats fluviaux, ce sont des commissariats parfois qui étaient, qu'on a institués, qu'on a installés par des services provinciaux, mais sans pour autant qu'on puisse avoir une consultation du ministère des Transports, qui a constitutionnellement la charge de pouvoir gérer ce secteur. Donc maintenant, c'est une synergie. Au niveau du ministère par exemple, des Transports, il y a cette synergie qui est créée pour que, déjà, on voit en toilette, on voit ceux qui étaient impliqués dans ce genre de service, et le gouvernement, comme il a financé la formation et le perfectionnement des commissaires civils, pour qu'ils sachent un peu quelle est leur mission, qu'est-ce qu'ils ont comme attribution dans leur responsabilité. Ben, on a formé, on a financé des formations au centre de formation régionale en navigation intérieure à Kaouka. On a appelés de toutes les provinces qui sont arrivées, on les a formés, renforcé les capacités pour les remettre à niveau. Mais là, il y a un travail qui va être fait par son excellence, monsieur le ministre, pour pouvoir faire une mise en place de ces commissaires bio. Donc, on va voir, effectivement, ceux qui n'avaient pas cette compétence-là, ben, on les met de côté. Donc, ça, c'est au niveau de chaque service, en principe, acquitté, devra prendre des dispositions parce qu'on ne peut pas prendre une mesure globale pour ouvrir une institution judiciaire à l'endroit de tous ces services-là. C'est chaque ministère qui est acquitté qui doit prendre des dispositions pour ce service, pour comprendre, pour prendre une décision acquittée qui concerne son service pour que cela ne puisse pas revenir. Voilà comment il faut.
Voilà, on va écouter les deux derniers auditeurs rapidement. Il y a Ingénieur Mangoyo qui nous appelle de Kinshasa et Thomas qui est à Kindu. Ingénieur Mangoyo, on est avec vous. Peut-être dans deux minutes, parce que là, on va terminer cette émission et permettre à notre invité de pouvoir aussi conclure. On vous écoute. Ingénieur Mangoyo, vous êtes avec nous.
C'est tout.
Oui, d'abord, on a d'abord Ingénieur Mangoyo qui est ici à Kinshasa. Ingénieur Mangoyo, vous êtes avec nous, bonjour.
Mais bonjour, M. Pierrot, merci pour la parole.
Ok, peut-être en une minute et demie, vous avez suivi les uns et les autres, votre point de vue rapidement, oui.
Oui, M. Pierrot, bon, c'est pas la première fois qu'on prend une telle décision, mais il faut quand même la prendre. Mais Pierrot, je dois vous dire que, selon moi, quand vous allez sur le terrain, vous verrez que par expérience, cette pratique-là, c'est un réseau. Et, attendez, il y a quelqu'un qui se réveille le matin, il se fabrique un document, et bon, il va sur le terrain, il commence à percevoir les taxes, et puis aujourd'hui, on constate que ces taxes sont illégales, et bien, ce monsieur-là, c'est la cour douce, il est là, on ne fait rien de lui. Moi, je pense que je ne suis pas juriste, mais je sais que cette pratique-là, c'est un acte, et, disons, répréhensible. Donc, c'est de l'escroquerie, c'est même un faux usage de faux. Il faut qu'on sanctionne ces gens-là. Autant on a supprimé ces taxes, autant aussi ces auteurs-là et ces actes illégaux doivent être sanctionnés. Et ainsi, on va décourager les autres.
Merci. Oui,
le réseau, il faut aussi tout faire. Hein, c'est un système. Je ne sais pas. Je laisse le soin aux auditeurs de voir comment éradiquer ce système parce que chasser le matériel, il revient au galop. Voilà ce que j'avais à dire, M. Pierrot.
Merci beaucoup, Ingénieur Mangoyo. Il faut démanteler les réseaux, il faut prendre les mesures, mais il faut aussi sanctionner ceux-là qui ont fait. Qui ont recouru à l'usage du faux pour fabriquer des faux documents, fabriquer des taxes qui ne sont pas couvertes par une loi. Il faudrait quand même les poursuivre et démanteler ces réseaux-là. Nous allons vous écouter, Thomas, pour terminer cette émission. Vous êtes à Kindu, dans la province de Maniema. Bonjour, Thomas.
Bonjour, M. Pierrot.
On vous écoute aussi en une minute et demie, votre point de vue.
Ok. Vraiment, avec les taxes, nous connaissons que ce sont là l'argent qui serve pour le bon fonctionnement ainsi qu'investissement pour le gouvernement et au profit de la population. Supprimer des taxes, c'est bon, c'est gentil, mais je sais que ce sont des taxes là qu'on a taxées illégales. Il y aura encore d'autres taxes qui vont s'ouvrir de l'autre côté. Maintenant, pour conclure, je voulais me dire ceci. Il fallait au moins impliquer la société civile et aussi bien la FEC, l'association des armateurs, pour que ces documents-là soient vulgarisés au niveau de la base. Je suis en train de voir très loin là, par exemple à Ubundu, à Koué, là c'est très enclavé, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de radio qui arrive. Maintenant, comment cette population qui est en train d'opérer sur la voie fluviale qui s'engagne Kindu, des fois il s'arrête au niveau de Koué à 350 km. Maintenant, comment ce document va arriver à ce niveau? Il y a plusieurs mots qui se font vraiment dans notre pays. Vraiment impliquer la société civile qui est un peu partout. Il y a les associations. Nous, on a mené de tels projets avec la bonne gouvernance, pour société civile pour la bonne gouvernance. il fallait impliquer les associations
pour arriver vraiment à atteindre beaucoup de personnes.
De la base,
merci beaucoup Thomas. On ne sera pas allé plus loin. Vous pensez qu'il faut vraiment associer, que ce soit les armateurs, la société civile, pour arriver vraiment à sensibiliser ceux qui sont dans le milieu où la radio ne peut pas arriver, mais qui pourront être fracassés par ceux qui percevaient toutes ces taxes. Merci beaucoup à vous tous d'être intervenus dans cette émission. Nous revenons à vous, Monsieur Daniel Volungidi. Vous avez suivi les uns et les autres. Le souci de la population, c'est de voir vraiment les secteurs assainis et surtout de palper sur terrain cette décision et que les gens puissent naviguer sans beaucoup de difficultés. Ce n'est pas la première fois ni la dernière qu'on en parle, mais pour ce moment, dans un prochain avenir, qu'est-ce que les auditeurs peuvent attendre par rapport à ces décisions et la confiance qu'ils peuvent avoir dans la démarche que vous menez? C'est aussi une façon de conclure l'émission.
Merci beaucoup. Je pense que la population doit avoir confiance à son gouvernement. Ils sont en train de créer un environnement assaini pour attirer les investisseurs. Vous savez que notre population est pratiquement sous-utilisée à 98%. Il n'y a que peut-être 90% de la population qui est active, qui a un problème de chômage. Ce chômage ne peut être résolu que quand il y a de l'investissement dans le pays. Or, l'investissement dans le pays, il faudrait attirer les investisseurs qui viennent ici. Mais il faut qu'ils rencontrent un environnement assaini, il faut qu'il y ait un climat des affaires. Donc, c'est comme ça que vous voyez ce comité de pilotage qui a été mis en place pour essayer de vraiment de prendre les choses en main, de va fonctionner pour pouvoir essayer de matérialiser cet arrêté afin que réellement nous puissions voir les résultats dans le plus bref délai.
Merci beaucoup, Monsieur Daniel Volungidi, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle encore à nos auditeurs que vous êtes le conseiller fluvial au ministère des Transports et Voies des Communications. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Gilles Longuembo était à la coordination et réalisation assistée d'Elvira Panzou. Pierrot et la Maison vous a présenté cette émission mise en monde par Jean-Noël Mokondo. Nicole Ngata a assuré la supervision. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radio.net, mais aussi en rediffusion ce soir à 20h30, heure de Kinshasa. Au revoir.